Bonsoir, comment allez-vous? C'est l'histoire d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Nous sommes chez les Inuits. Alors, un jour, la femme dit à son mari, avant qu'il ne parte en expédition, « Ramène-nous un enfant ». L'homme cherche et trouve dans la forêt une belle souche, dans laquelle il sculpte un tout petit garçon. Il le rapporte à la maison. Sa femme l'habille et ce morceau d'arbre s'anime, car la souche était vivante. Le petit garçon grandit, puis se sauve. Ses parents le laissent partir car il est armé, armé de leur amour et de leur sagesse, armé aussi de tout ce que la souche d'arbre lui a passé. Il se dirige vers la ville pour y accomplir une mission. En chemin, il se fera aider par l'ours blanc, puis par le caribou, puis par la grande chouette blanche. Et oui, dans ce paysage de neige, beaucoup d'animaux sont blancs, le loup, le lièvre. Vous découvrirez la mission de Cœur des forêts, c'est le nom du garçon, en écoutant le conteur Patrick Fishman au Festival des contes et légendes d'Eure-et-Loir, avec en plus un joli salon du livre et des conférences le week-end prochain. Ce sera au château de Maintenon. Si ce n'est pas votre région, vous pourrez découvrir la suite de l'histoire en lisant « Cœur des forêts à parler » édité chez Rue du Monde. Quant aux dates de ce festival du légendaire, elles sont bien entendu sur le site des Petits Bateaux.
Je m'appelle Alban, j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir comment font les arbres pour boire et manger alors que leurs racines ne bougent pas. Au revoir.
Bonsoir Alban et merci pour ta question très bien posée. Claude Bourguignon, vous avez écrit Le sol, la terre et les champs, édité au Centre de la Terre. Pouvez-vous répondre à Alban?
Alors pour boire, c'est facile, mais ça c'est l'eau de pluie qui va tomber sur le sol et qui va venir directement en contact avec les racines. Pour le reste de la nourriture, il ne faut pas dire que les racines bougent pas. Les racines, elles poussent continuellement. L'arbre fait tout le temps pousser ses racines.
Même un arbre très vieux?
Même un arbre très très vieux. Les records de profondeur d'enracinement sur chêne en Europe, c'est 150 mètres de profondeur. Donc l'arbre est capable de couvrir des hectares avec ses racines. Donc en fait, il ne faut pas les voir comme chose immobile. C'est toujours quelque chose qui pousse. En plus, les arbres associent leurs racines avec des champignons qu'on appelle les mycorhizes, qui vivent en symbiose. L'arbre donne du sucre aux champignons et en échange, le champignon, avec son mycélium très très fin, qui va multiplier la surface de contact immense, parce que ça, c'est très très fin, les mycéliums du champignon.
Les mycéliums, Claude?
Le mycélium, c'est donc tous les filaments que les champignons font. Eh bien, ces mycéliums vont aller chercher la nourriture dans le sol et vont le donner à l'arbre. Donc l'arbre, il lui donne du sucre aux champignons et en échange, le champignon lui rapporte le phosphore, le potassium, même de l'eau. Et il faut imaginer qu'en fait, ça pousse les racines.
Donc les racines poussent et en plus elles sont prolongées par les mycéliums.
Voilà, elles sont prolongées par les mycéliums qui les multiplient par une longueur d'à peu près 400. Donc c'est énorme. Il faut imaginer que le contact racine-sol, c'est quelque chose de très très impressionnant.
C'est-à-dire qu'attendez, s'il y a un mètre de racine, il y a 400 mètres de mycélium.
Il y a 400 mètres de mycélium, voilà.
C'est incroyable.
Et on ne le voit pas, il est très très fin, il faut un microscope pour le voir.
Mais Claude Bourguignon, la nourriture qui va dans l'arbre, elle passe forcément par le mycélium ou quelquefois elle passe directement par la racine?
Alors chez les arbres, ça passe presque essentiellement par le mycélium. Il y a des plantes annuelles comme le blé qui peuvent se nourrir parce qu'ils ont ce qu'on appelle les poils absorbants, ce que n'ont pas les arbres, ils peuvent allonger leurs cellules et donc là ils peuvent se nourrir elles-mêmes en contact avec le sol, c'est ce que va faire un blé. Mais la plupart des plantes s'associent quand avec le mycélium, c'est beaucoup plus efficace.
Claude Bourguignon est ingénieur agronome et docteur en sciences. À propos d'arbres, vous pouvez voir en ce moment un documentaire qui passe au cinéma, au vrai cinéma, L'intelligence des arbres, ou comment les arbres communiquent et prennent soin les uns des autres. C'est d'après le best-seller La vie secrète des arbres aux éditions Les Arènes, qui a été vendu, je crois, à plus d'un million d'exemplaires. Et 5000 arbres seront plantés pour les 5000 premières places de cinéma achetées.
Bonjour, c'est Marie. J'ai 12 ans et je voulais savoir depuis quand les femmes accouchent-elles dans les hôpitaux et plus à la maison. Bisous.
Hey, merci Marie, bisous à toi aussi. Chantal Birman, vous êtes sage-femme. Depuis quand, vous demande Marie?
Depuis les années 50. Avant les années 50, les femmes accouchaient majoritairement à la maison. C'est intéressant sur le plan historique parce que les sages-femmes, originairement, mais je dirais dans l'âme du métier, étaient plutôt des femmes qui allaient à la maison. Et les médecins se sont plutôt occupés de l'hôpital, qui au départ était d'ailleurs appelé l'hospice. Hôpital, ce mot était hospice. Et arrivait ici l'ensemble des femmes pour accoucher. Au départ, c'était surtout des filles mères ou des gens qui étaient pauvres, voilà.
Qui
allaient à l'hôpital. C'était plutôt mal vu d'aller à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, on mourait beaucoup à cause de la transmission des germes et les fameuses infections puerpérales qui ont régné pendant un certain nombre d'années.
Parce qu'on ne savait pas qu'il fallait se laver les mains encore.
On ne savait pas qu'il fallait se laver les mains et comme vous le savez, les médecins faisaient les autopsies et à la fois, en faisant les autopsies, ils récupéraient les germes et ils ne se lavaient pas les mains, ils n'avaient pas de gants et ils infectaient ensuite les femmes qui accouchaient.
Donc l'hôpital n'était pas du tout sécure, au contraire.
Ah ben non, les taux de mortalité étaient 50, 100 fois moins à la maison qu'à l'hôpital. Et aller à l'hôpital, c'était uniquement pour les pauvres. Donc d'accord. C'est ça qui est intéressant à savoir. En fait, chacun avait son territoire. Les sages-femmes à la maison, les médecins à l'hôpital. Et petit à petit, les sages-femmes sont rentrées progressivement à l'intérieur des hôpitaux pour aider les médecins avec l'antibiothérapie et l'hygiène, bien sûr. Il y a eu de moins en moins de risques de mortalité. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à l'hôpital, il y a plus d'interventions qu'à la maison. Ça, c'est sûr.
Vous devriez accoucher là maintenant. Vous iriez où?
Eh ben,
si vous êtes en bonne santé, hein, oui.
Si tout va bien. Eh ben, je choisirais ni l'hôpital ni la maison pour une première naissance. Je choisirais les maisons de naissance, ou plus exactement, on va appeler ça des espaces physiologiques pour faire la différence avec les autres maisons de naissance européennes, qui elles sont à proximité immédiate de l'hôpital. Alors qu'en France, les médecins français n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu que cette entité soit à l'intérieur de l'hôpital. Donc les maisons de naissance existent maintenant, c'est des espaces, donc en France, c'est pas des maisons de naissance, mais ce sont des espaces qui sont gérés par les sages-femmes et où on peut mettre au monde le bébé et s'il y a le moins de problèmes, eh ben, on traverse le couloir et c'est l'hôpital.
Et c'est moins brutal que l'hôpital?
Ben, disons que le rythme de la femme est respecté et surtout, c'est un accouchement par sage-femme alors qu'à l'hôpital, on peut avoir jusqu'à 8-9 accouchements par sage-femme.
Ma mère a accouché d'un de mes frères dans le taxi. Ça compte comme à la maison ou ça compte comme à l'hôpital puisque c'était entre les deux? Chantal Birman est sage-femme et vous pouvez retrouver son site sur le site des Petits Bateaux. Après Adriano Celentano, nous serons avec Éric Cazan, quelle est la plus vieille maison de Paris, et avec Christine Rollard, comment font les araignées pour ne pas se coller les pattes sur leur toile puisque le fil avec lequel elles font leur toile est collant.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freddi per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci.
Ils sont forts ces Italiens, c'était Adriano Celentano.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez bien Éric Hazan, si vous êtes auditeur de France Inter. Il est éditeur, écrivain, il dirige les éditions La Fabrique. Il a écrit pas mal de livres sur Paris que vous trouverez sur le site des Petits Bateaux. Le dernier s'appelle Une traversée de Paris. Il est édité au Seuil et il est sorti en format poche.
Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir de quand date la plus vieille maison de Paris qui est encore habitée aujourd'hui. Merci.
Bonjour, je m'appelle Benoît. Et j'ai 18 ans et en fait j'aurais voulu savoir si on sait de quand date la plus vieille maison de Paris encore debout aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.
Bonsoir Benoît et Hugo. Alors la plus vieille maison encore debout et la plus vieille maison encore habitée, Éric Hazan?
Eh bien on sait assez précisément où elle est, bien sûr, et de quand elle date. Enfin les livres disent qu'elle date de 1407. C'est la maison de Nicolas Flamel qui se trouve... Rue de Montmorency, dans le 3e arrondissement, qui est un restaurant aujourd'hui.
Rue de Montmorency.
Oui, c'est une petite rue qui est perpendiculaire à la rue Beaubourg, qui n'est pas très loin des Arts et Métiers. Et Nicolas Flamel, c'était un homme riche. Il était alchimiste. Mais en fait, il n'y a pas tellement de maisons anciennes, très anciennes dans Paris. C'est une vraiment des rares. Il y a des bâtiments anciens, qui sont les églises. La plus vieille église de Paris, c'est Saint-Julien-le-Pauvre, qui date du XIIe siècle. Et si vous allez vous y promener, les garçons, vous verrez le plus vieil arbre de Paris, qui date d'Henri IV, et qui est un robinier. Un robinier, c'est une espèce d'acacia. Pourquoi robinier? Parce que le jardinier d'Henri IV s'appelait Robin. Cet arbre est vieux, il tient en partie avec une poutre en béton qui soutient sa branche principale, mais enfin, il est toujours là. Donc, les églises, elles ont tenu... Mais pourquoi? C'est parce qu'elles étaient construites en bonne pierre de taille. Alors que les maisons pour des gens ordinaires comme vous ou comme moi, c'était des maisons qui étaient faites d'une façon qui les rendait très fragiles. C'est-à-dire c'était des carcasses de bois, des charpentes de bois. Et les murs étaient rendus étanches avec du moellon. Le moellon, c'est pas de la pierre de taille, hein, c'est des cailloux qu'on ramasse à droite à gauche. Et le tout était enduit de plâtre. Parce que le plâtre est très abondant à Paris, il suffit de creuser par terre, c'est du plâtre le sous-sol parisien.
Ah oui, je n'avais pas pensé.
Et ce plâtre a eu un gros intérêt pour Paris, c'est que le plâtre est un formidable ignifuge, c'est-à-dire ça évite de brûler. Le plâtre ne brûle pas, si bien que Paris n'a pas brûlé, contrairement à Londres.
C'est pour ça qu'on a des vieilles maisons, pas des masses, mais quand même.
Oui, il y a très peu de vieilles maisons, mais il y a à Paris des vieilles demeures seigneuriales, des palais, des hôtels particuliers qui sont très anciens, enfin... relativement ancien.
Par exemple,
l'hôtel de Sens, qui est dans le 4e arrondissement, pas loin de la Seine, en face de l'île Saint-Louis, qui était la résidence parisienne des évêques de Sens. Et aujourd'hui, c'est la bibliothèque Fornet. Et si on va se balader là-bas, il faut bien regarder la façade principale, parce qu'il y a un boulet de canon encastré dedans, qui date de la Révolution de 1830.
Donc, la plus vieille maison encore debout, la plus vieille maison habitée, c'est la même pour répondre à Hugo et à Benoît. Donc,
oui,
celle
est...
de Nicolas Flamel.
Qui est encore tout à fait habitée, puisqu'il y a même un restaurant.
Éric Hazan nous disait que Nicolas Flamel était riche. Il était riche et généreux. Il avait donné beaucoup d'argent pour rénover l'église du bout de sa rue, dont il reste maintenant la tour Saint-Jacques, en haut de laquelle on peut grimper. On a une très jolie vue sur Paris, si on a des bons mollets, parce que quand même ça fait quelques marches, mais elle n'est pas ouverte tous les jours de l'année, il faut donc se renseigner. Mais la montée vaut le coup. Vous connaissez ce nom de Nicolas Flamel tous? Mais oui, mais pourquoi donc? Parce que c'était l'ami de Dumbledore, et oui, pour ceux qui ont lu Harry Potter.
Bonsoir, je m'appelle Clément, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir pourquoi les araignées ne se collent pas à leur toile. Merci, au revoir.
Pourquoi les araignées ne se collent pas à leur toile? Christine Rollard, vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et puis vous venez d'écrire chez Belin avec Vincent Tardieu, Arachna, les voyages d'une femme araignée. C'est vrai que on pourrait penser que ça se colle parce que les fils d'araignée, ils sont collants ou pas?
Alors, effectivement, dans une toile, alors toutes les araignées ne font pas de toile, hein, Clément. Donc ça, c'est vraiment un piège, hein, c'est un type de piège. Toutes ne font pas de toile. Mais pour celles qui font des toiles, tous les fils qui donc constituent ce piège ne sont pas collants. Seule la spirale est collante. Donc déjà, tout ce qui constitue le pont, le cadre, où est accrochée justement cette belle toile géométrique, ainsi que les rayons. Donc ils vont porter la spirale, si on regarde bien, donc cette belle spirale assez régulière, ne sont pas collants. Seule la spirale est collante. Alors elle a des petites gouttelettes de glu, en fait, de part et d'autre, régulièrement, donc sur ses fils. Et l'araignée, ben, quand elle va se déplacer, elle va pas forcément se déplacer sur sa spirale déjà. Hein. Alors bien sûr, les proies, quand elles tombent dans la toile, vont se coller en fait sur ces fils. Donc bien sûr, ils vont se coller le corps. Hein. Donc c'est pas les pattes qui vont mettre dessus, en général, c'est le corps. Mais l'araignée, elle va se déplacer sur souvent les rayons et non pas la spirale. Et néanmoins, les araignées sont des animaux qui sont très propres. Si on les regarde bien, ils se nettoient régulièrement les pattes. Alors, c'est pas seulement pour éviter qu'il y ait de la poussière dessus, parce qu'elles vont ressentir tout ce qui se passe autour avec toutes les soies, les épines, etc. qu'elles ont sur les pattes. C'est ce qu'on appelle leur organe sensoriel. C'est ce qui leur permet de ressentir tout ce qui se passe autour, les vibrations, les déplacements d'air, etc. Mais se passent aussi les pattes dans la bouche pour recouvrir ces pattes d'une substance qui va leur éviter de se coller à son propre piège. Et c'est qui génial. Permet effectivement de ne pas se coller sur des petites gouttelettes.
Les pattes dans la bouche, mais comment elle fait?
Elle fait des toilettes de chat. Les araignées, en fait, font des toilettes de chat. Et donc, elles se nettoient, elles se passent les pattes sur le corps, sur les yeux, pour qu'elles réussissent à mieux voir, même si elles ne voient pas souvent très bien. Et puis, elles se nettoient l'abdomen, elles se nettoient les autres pattes, elles se frottent les pattes entre elles ou contre son corps, et elles se les passent dans la bouche, en fait, pour que tout soit bien propre, bien net. Une araignée, c'est sain, c'est propre.
Mais même ses pattes de derrière?
Eh ben, elle frotte ses pattes de derrière contre son abdomen. Et puis, elle se les frotte les unes contre les autres.
C'est drôle, quand on vous entend, elles sont sympathiques.
Ben j'espère en fait qu'on va les voir avec un autre œil. Et ouais. Imaginez bien que ce ne sont pas, les araignées ne sont pas sales, ça c'est ce qu'on entend de temps en temps hein, quand même. Les araignées sont sales, non. La toile peut prendre de la poussière, il y a des restes de proie, des choses comme ça. Mais l'araignée elle-même est très propre.
Non, les araignées ne sont pas sales, elles sont terrifiantes. Elles ont besoin de quelqu'un comme Christine Rollard qui les aime pour les défendre. D'ailleurs, grâce à Christine Rollard, mon petit bateau, on finit par s'y faire.
T'es belle quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur. Il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais. On n'est pas des géants, viens, on pleure, on pissera moins. Comme toujours, ça passera, ça va, ça vient, ça s'en va. Deux ans, on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock and roll. Sur des vieux dragons. Si c'est la mer à boire, le grand fiasco, le chaos et son cafard, je t'en ferai des calembours et des comptines pour l'histoire. Tomber de chat et danser là, si tu chiales, je coule avec toi. Viens, on danse, ça se verra moins. Toujours ça passera, ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock'n'roll sur des vieux Italiens. Flamme éternelle, lui vieux. Taxi jaune à Vancouver, des amours solitaires, l'oiseau noir, la ritournelle. Un hôtel bleu face à mon face à mer.
Palladium, c'était Brigitte. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter, vous connaissez le principe, des enfants posent des questions et des savants répondent. Vous posez vos questions au 01 56 40 43 57, c'est le numéro de notre répondeur. Quand il marche, en général il marche, sauf la semaine dernière, mille pardons, mille pardons. Ça y est, c'est reparti, il va bien. Christophe Vigny va bien aussi, il est directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure de Paris.
Bonjour, je m'appelle Rose. Je voudrais savoir j'ai 5 ans et je voudrais savoir si toutes les planètes ont des montagnes. Merci, au revoir.
Christophe Vigny, que pensez-vous de cette question de Rose ? Est-ce que toutes les planètes ont des montagnes, demande-t-elle ?
Rose pose une très bonne question. Alors, les planètes, c'est compliqué. Il y a plusieurs sortes de planètes. Il y a ce qu'on appelle les planètes telluriques, qui sont des planètes, disons, pour simplifier, faites de cailloux, comme la nôtre, la planète Terre, celle sur laquelle on habite. Et puis, il y a des planètes qui ne sont pas des planètes faites de cailloux, qui ne sont pas rigides. Et l'exemple de ça, c'est Jupiter, par exemple. Les planètes géantes, qui sont plutôt des boules de gaz. Alors, les planètes qui sont des boules de gaz, elles n'ont pas de montagne. Elles ont une topographie. Le gaz, il y a des explosions à l'intérieur, il y a tout un tas de mouvements, c'est compliqué. Donc, c'est pas parce qu'elles sont faites de gaz qu'elles sont lisses. Mais on va pas dire qu'elles ont des montagnes. Les montagnes de la planète Terre, elles existent à cause de la dérive des continents, de la tectonique des plaques qui bougent les unes par rapport aux autres et qui, quand elles se rencontrent, quand elles se choquent l'une contre l'autre, la matière qui est apportée avec les plaques va créer des chaînes de montagnes parce qu'elle ne sait pas trop où aller. Deux plaques se rencontrent, ça fait de la matière, ça monte, ça fait une chaîne de montagnes.
Donc pour qu'il y ait montagne, Christophe Vigny, il faut qu'il y ait mouvement. Et pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait chaleur, c'est ça ?
Exactement. Pour qu'il y ait montagne, il faut un certain nombre de choses. Il faut qu'il y ait mouvement. Pour qu'il y ait mouvement, il faut chaleur. Et il faut aussi matière rigide.
Ah oui.
Si vous n'avez que de la matière très 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 molle ou liquide, vous n'avez pas de montagne. Vous pouvez avoir des mouvements, mais vous ne pouvez pas faire une topographie qui va se maintenir pendant un temps long, parce qu'elle va tout de suite s'étaler. Si c'est du pudding, ben ça ne va pas rester à une haute altitude. Alors toutes ces conditions, elles sont réunies sur la Terre. Sur la Terre, c'est rigide, il y a des mouvements, mais c'est suffisamment de mouvements sur des choses assez rigides, mais un peu molles quand même, et à la fin, ça fait des montagnes. Alors sur d'autres planètes, est-ce qu'il y a des montagnes ? Pour répondre à la question de Rose, ça dépend. Donc on a parlé des planètes qui ne sont pas les planètes telluriques, là c'est non. Et sur les planètes telluriques, les autres planètes qui ressemblent un peu plus à la Terre, Mars et Vénus par exemple, ça dépend de leur température. Si elles sont trop froides, il n'y a pas de chaleur à évacuer, il n'y a pas de tectonique des plaques, donc il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas vraiment de montagne. Il peut y avoir de la topographie à cause du bombardement de météorites, il peut y avoir des trucs bizarres, mais il n'y a pas vraiment de chaîne de montagne. À l'inverse, si c'est trop chaud, alors vous avez des mouvements, mais c'est trop mou. Ça fait des choses qui s'étalent quand elles essayent de monter et vous n'arrivez pas non plus à créer des chaînes de montagne. Alors la planète trop froide, c'est Mars. La planète trop chaude, c'est Vénus. Et la planète parfaite, celle sur laquelle il y a des montagnes, c'est la Terre.
Ça fait plaisir de savoir que finalement c'est chez nous qu'on est le mieux. Toutes les réponses à ces questions, vous les trouverez sur le site des petits bateaux via franceinter.fr. Vous trouverez également sur le site les dates du Légendaire. Vous savez, le festival de contes et légendes d'Eure-et-Loire qui se déroule en ce moment avec le Salon du Livre le week-end prochain au château de Maintenon. Donc je vous invite à venir sur notre site. Je vous invite également à podcaster cette émission pour la réécouter avec qui vous voulez, quand vous voulez. Ce petit bateau était réalisé par Marjorie de Voucoux. Merci également à Elisabeth Collet, à Jean-Baptiste Audibert. Nous nous retrouverons dimanche prochain à partir de 19h30. Et je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.